Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Alexandra travaille comme saisonnière sur un bateau en Russie. Une bonne partie de l'année, elle navigue sur les flots de la Volga, à partager les merveilles de son pays avec les touristes francophones. Rencontre avec Alexandra sur son bateau. Donc on est sur un bateau russe qui est en train de naviguer sur le fleuve Volga entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Sur ce bateau, des touristes, des voyageurs, mais aussi le staff du bateau, dont plusieurs personnes qui sont francophones. Donc là, dans 50 minutes, tu me dis qu'il faut que tu ailles intervenir dans la chorale. Toi, tu fais partie du staff et tu fais partie de ceux qui travaillent sur ce bateau en tant que guide francophone, mais pas seulement. Avant que tu me parles de ton boulot et de ce que tu fais ici, j'aimerais qu'on revienne un peu sur toi et que tu me racontes ton histoire, ton parcours et ce qui fait que tu parles la langue française. Bonjour Alexandra.
Bonjour. Bon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. C'est ma maman qui m'a amenée à l'école spécialisée en français. Donc après l'avoir terminée, je suis entrée à l'université linguistique. Donc, et sans canela, je l'ai terminé, voilà, et j'ai commencé à enseigner le français.
Mais pourquoi le français? Est-ce que c'est en Russie une langue qui plaît? Comment ça se fait que tes parents ont choisi pour toi que tu apprennes le français, et peut-être pas l'anglais, qui est une langue plus internationale?
Puisque ma maman, elle adorait toujours le français, mais elle n'avait pas d'occasion pour l'apprendre, elle n'avait pas peut-être beaucoup de choix, il y avait l'allemand. Et l'anglais plutôt, donc il n'y avait pas beaucoup d'écoles françaises, voilà, l'Union soviétique. Il y en avait, mais pas autant, voilà. Donc elle parlait allemand un tout petit peu, voilà, et elle a dit que Sacha, j'aimerais bien que tu parles français. C'est pour ça que voilà, tu vas aller à l'école spécialisée en français.
Mais ça, c'est le choix de ta maman. Donc toi, maintenant, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es content d'avoir appris cette langue? Est-ce que c'est pas toi qui as choisi finalement?
C'est vrai, c'est pas moi, mais je suis contente, pourquoi pas, c'est une belle langue. Je suis absolument d'accord avec elle et très ravie, c'est vrai.
Et donc à travers l'apprentissage d'une langue, du français, c'est ça qui t'a un petit peu orientée dans ta vie d'adulte?
Oui, exactement, donc c'est pour ça qu'après j'ai commencé à enseigner le français, ce que j'aime bien, parce que j'enseigne aux enfants, j'enseigne aux ados et aux grands aussi, donc, et en plus qu'on a bien sûr toujours besoin de la pratique, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du tourisme un tout petit peu comme ça, au bateau, parce qu'il y a des francophones qui viennent, c'est une bonne occasion.
Mais à l'origine, donc tu es d'abord enseignante avant de devenir guide pour le tourisme?
Exactement.
C'est quoi enseigner la langue française en Russie? Qui c'est qui vient l'apprendre? Est-ce que c'est une langue qui plaît encore aujourd'hui?
Oui, c'est toujours la langue qui plaît. Et en plus, ce qui est intéressant, à chaque fois quand je demande mes élèves pourquoi vous voulez apprendre le français, ce n'est pas pour des raisons, je ne sais pas, du travail ou quelque chose. À chaque fois, j'entends. Mais parce que c'est joli, parce que c'est une belle langue, parce que j'aimerais bien parler, parce que ça fait plaisir. Voilà, donc le français, ça fait plaisir aux gens.
Mais à qui ça s'adresse? À quelle tranche de la population? Ce sont les Russes d'une certaine catégorie sociale? Ou est-ce que tout le monde... Enfin, qui c'est qui vient à l'Alliance? Parce que tu es prof à l'Alliance française, hein, c'est ça? Qui sont les gens qui viennent apprendre le français?
Un peu de tout le monde, je ne peux pas vraiment dire, parce que, disons, il y a des enfants dont les parents, toujours un peu comme ma maman, s'intéressent à la culture française. Il y a des enfants, eux-mêmes aussi, qui veulent apprendre, pourquoi pas. Chez nous, les enfants sont toujours très occupés, donc ils ont l'habitude de travailler beaucoup, voilà. Et les adultes, c'est plutôt les femmes, c'est vrai, parce qu'elles s'intéressent à Paris, toujours à la mode, à tout ce qui est joli. Donc, ils veulent voyager en France, donc ils viennent, elles viennent pour apprendre, pour avoir un peu l'idée comment ça peut se passer chez vous, voilà.
Il y a toujours cette question que j'aime bien poser, c'est quelle est l'image qu'ont les étrangers des Français? Alors je sais que dans beaucoup de pays du monde, pour pas mal de gens, les Français sont des râleurs. Quelle est l'image des Russes pour les Français?
Les Français sont très légers. C'est le premier mot qui vient, vraiment. C'est la légèreté du caractère, de l'esprit français. Oui, parce que par rapport à nous, bah, vous avez remarqué ça, on ne sourit pas beaucoup, on ne parle peut-être pas beaucoup, donc les Français sont différents. Je ne sais pas, les Français, pour moi, peut-être ne prennent pas beaucoup de choses au sérieux. Peut-être, oh oui, mais je ne sais pas, j'ai cette impression. En plus, les Français savent bien faire des choses jolies. Voilà. Autour des Français, tout est joli pour moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, la France, quand j'ai visité la France, c'est la beauté de tout. C'est des petites fleurs, c'est surtout la beauté du petit. Voilà. Pas de grands bâtiments comme chez nous, voilà, des bâtiments énormes, je ne sais pas, des palais, mais la beauté de quelque chose très petite, des détails.
Et donc le côté léger, donc souriant, mais quoi encore?
Bah alors d'accord, on a dit un tout petit peu. Ben non, c'est la légèreté dans tous les sens, dans tous les sens, vraiment. Parce que quand je parle avec des Français, j'ai l'impression que la vie, elle est belle, elle n'est pas dure. Hein. Chez vous, ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai cette impression qu'on peut toujours voilà, trouver des petites choses qui font plaisir, qu'on peut profiter de quelque chose de très petit. Ben, c'est ce que moi, je pense. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours légèreté. Ben non, je reviens tout le temps à ce mot. Voilà.
Et cette légèreté, t'en penses quoi? C'est quelque chose de bien? C'est quelque chose de pas bien?
Ben, bien sûr que c'est bien. C'est bien, c'est super bien. Je comprends que peut-être chez nous, ce n'est pas possible. Mais chez vous, c'est assez logique pour moi. Par exemple, chez nous, les gens un peu au sud aussi, ils sont plus légers que les gens du nord de la Russie. Voilà, donc peut-être c'est ça en flou aussi.
C'est vrai, quand on arrive ici, ça commence à l'aéroport. Forcément, les voyageurs qui arrivent en Russie viennent souvent soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai qu'on se retrouve face à des gens qui sourient pas ou peu. Pourquoi?
C'est le caractère nordique. Je pense que ça, on peut peut-être en Norvège, peut-être c'est la même chose. C'est toujours le climat, le froid, qui vraiment qui forme le caractère. Donc nous, on a notre climat très sévère qui a formé notre caractère. C'est pour ça que les gens sont très sérieux, toujours, je ne sais pas, en train de réfléchir de quelque chose. Voilà.
Mais comment sont les enfants ici en Russie? Est-ce qu'ils sont aussi très sérieux, ils ne sourient pas? Ou est-ce qu'ils sont, comme nos enfants à nous, beaucoup plus spontanés?
Aujourd'hui, je pense que les enfants sont partout très spontanés. Sauf que peut-être avant, chez nous, les parents, les parents, c'est un peu difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que les parents, l'éducation, c'était un peu plus sévère peut-être. Peut-être aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. Donc chez nous, aujourd'hui, ça commence, les parents deviennent de plus en plus loyaux, disons comme ça. C'est pour ça que chez nous aussi, chez nous, les enfants deviennent aussi un peu plus peut-être gâtés, peut-être un peu plus moins sérieux, voilà, tout ça. Un peu comme partout dans le monde entier, voilà.
Et toi, ton itinéraire, tu étais une enfant sérieuse à l'école? Comment tu as grandi?
Moi, j'étais assez sérieuse à l'école, oui, parce que je travaillais beaucoup. J'avais toujours l'école. Après, j'avais l'école de musique, j'avais l'école de peinture, j'avais le sport. Donc, j'étais toujours très occupée. En plus, c'était toujours le français qui prenait beaucoup de temps. En plus, il fallait entrer à l'université. Donc, moi, je bossais pas mal.
Je sais que tu as 26 ans, Alexandra. Tu me disais ça ce matin. À quel âge tu as commencé à travailler?
À 18 ans, je suis entrée à l'université et cette même année, j'ai commencé à travailler à l'université en tant que secrétaire à la faculté, à ma faculté.
C'est normal ça, de commencer à travailler aussi jeune en Russie?
Oui, c'est normal, pourquoi pas, surtout quand on est étudiant. Non, chez nous, on commence à travailler assez tôt et c'est sûr que quand on termine l'université, directement au travail.
Certaines cultures, comme en Israël par exemple, à la fin des études, on prend un an pour aller voyager, voir le monde.
Non. Bah, pour aller voyager quand même, il faut avoir un peu de moyens. Pour avoir des moyens, il faut gagner. Pour gagner, il faut travailler. Donc on travaille.
C'est très logique ce que tu dis. Je sais, tu me disais aussi que tu as pas mal voyagé avec ta famille et tes parents étant plus jeunes. Tu parlais du Kazakhstan. Est-ce que tu peux parler de ton enfance et de ce que tu as fait ou les lieux où tu as habité et les mémoires qu'il t'en reste?
Pour Kazakhstan, je suis née à Kazakhstan, c'est vrai, parce que mes parents, ils étaient géologues. Donc, pendant mon enfance, on a pas mal voyagé. Mais comme je suis la plus petite de la famille, je ne me souviens peut-être pas beaucoup. C'était plutôt ma sœur aînée, mon frère aînée, bien sûr, qui ont dans la tête des images voilà, du Caucase, de Kazakhstan et tout. Moi, peut-être un peu moins, mais quand même. Donc, mon enfance, j'ai passé déjà en Russie, dans la région de Nijni Novgorod, parce qu'après la chute de l'Union, on a déménagé en Russie. Voilà, à partir de 4 ans, j'ai commencé déjà à vivre en Russie, mais de temps en temps, je voyageais aussi à Kazakhstan parce que c'était mes grands-parents qui vivaient là-bas. Voilà. Maintenant, malheureusement, non, mais voilà, avant, je voyageais là.
Tu as des souvenirs, toi, de la chute de l'Union soviétique? C'était en quelle année?
C'était justement l'année de ma naissance. Donc, je ne peux pas me souvenir, mais c'est vrai que c'était plutôt les années 90 que je me souviens. Et ce n'était pas facile, mais vous savez, quand il s'agit de l'enfance, les enfants sont toujours heureux. Donc, peut-être, pour moi, de toute façon, c'était l'enfance heureux. Parce que mes parents, ma maman, elle était toujours très active. Elle essayait toujours de faire tout son possible pour qu'on ne fasse pas attention à ce que, par exemple, on n'a pas, je ne sais pas, beaucoup d'argent, pas beaucoup de, je sais pas, beaux vêtements, pas beaucoup de bonbons et tout. Elle essayait toujours de créer quelque chose, d'inventer quelque chose. C'est pour ça que peut-être j'ai commencé à jouer de la musique. À 4 ans déjà, j'ai commencé à jouer du violon, voilà. Donc, on faisait toujours quelque chose.
Mais ça, c'est propre à ta famille ou est-ce que, d'une manière générale, les enfants ou les Russes étudient la musique, l'art, la peinture? Est-ce qu'il y a c'est culturel de vouloir étudier autant de choses différentes?
Oui, c'est ça. Normalement, après l'école, chez nous, l'école, disons, les leçons, les cours terminent à 14h. Donc, un peu pas comme chez vous. Oui, chez vous, c'est un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les parents travaillent. Voilà, pour ne pas rester à la maison, normalement, les enfants vont aux écoles différentes, aux ateliers différents, pourquoi pas, faire du sport, c'est normal, faire de la musique, de la peinture, je sais pas, du bricolage, quelque chose, non, de la danse, tout le monde fait ça.
C'est les enfants qui choisissent?
Ça dépend. Pour moi, c'était moi qui ai choisi, mais bien sûr, en tant que professeur, je connais plusieurs enfants où c'est plutôt les parents qui choisissent, mais c'est comme ça.
Là, on est sur, je le disais au début de cette émission, sur la Volga, sur un bateau russe qui transporte des touristes, hein, qui s'arrêtent sur différents itinéraires. Et toi, tu es ici en tant que guide. Comment est-ce que tu es rentré dans ce travail et en quoi ça consiste ?
Alors, dans ma ville, il y a une université linguistique. Donc moi, j'ai fait mes études dans une autre ville, mais dans ma ville natale aussi, il y a une université. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler en tant que professeur, malheureusement, chez nous, l'Alliance française, disons, ce n'est pas comme école, vous comprenez. Et à partir du mois de mai, par exemple, 3 mois de vacances, je n'ai pas de cours. Et si je n'ai pas de cours, ça veut dire quoi? Je n'ai pas d'argent. Voilà, parce que c'est payé d'après les heures. Alors quand même, moi, je dois faire quelque chose. Et j'avais une professeure aussi. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? Elle m'a dit, je fais guide, soit, je ne sais pas, réceptionniste sur le bateau. Comment ça se fait? Chez nous, cette université dont je viens de parler, ils ont une sorte de contrat ou quelque chose pour les étudiants. Normalement, c'est les étudiants qui font des stages ici pour travailler avec des francophones pour pratiquer la langue. Voilà. C'est pour ça que, voilà, cette jeune fille, elle avait cette possibilité et elle m'a dit que moi aussi, je peux essayer de le faire malgré que j'ai déjà terminé mes études. Et voilà, tout simplement, j'ai écrit sur Internet, voilà, au directeur et il m'a dit pourquoi pas. Donc, je peux participer. Voilà, c'est pour ça que je suis là.
D'accord, ça s'est passé comme ça. Tu disais donc tu es prof de français, hein, c'est le métier qui te fait vivre parce que tu as appris le français à l'école. Mais pourquoi avoir fait le choix de continuer le français et d'être prof de français? Tu aurais pu faire complètement autre chose, non? À un moment donné, quand on a 18, 19 ans, on se pose la question du métier, du qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie. Pourquoi tu as choisi de continuer le français et pas, je sais pas, ouvrir une boulangerie, travailler dans un magasin de mode?
C'est une bonne question. Moi aussi, je réfléchis assez souvent de ça. Disons, moi, j'aime les enfants. Alors, pourquoi pas enseigner le français aux enfants? Et quand j'ai commencé à travailler, je pensais que je vais surtout enseigner le français aux enfants. Mais petit à petit, on m'a donné d'autres cours avec voilà, des ados et des adultes. J'ai trouvé ça pas mal, de toute façon. Peut-être après, je vais continuer seulement avec les enfants, on verra. Mais disons, pourquoi enseigner? Tout simplement, par exemple, si j'habitais en Moscou, j'aurais peut-être un peu plus de possibilités. Mais comme j'ai choisi de vivre dans ma ville, il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises. Voilà. Oui, il y a des écoles, il y a une alliance française, il y a quelques, je ne sais pas, magasins comme Auchan, quelque chose, mais non, je ne suis pas une bonne vendeuse. Donc le commerce, ce n'est pas mon truc du tout. C'est pour ça que j'ai décidé de rester là. En plus, l'alliance française, c'est bien parce que ce n'est pas seulement l'enseignement, c'est la culture, on s'occupe de la culture française. On transmet votre culture et c'est bien, c'est beaucoup mieux que travailler tout simplement à l'école.
Il n'y a pas de travail l'été, donc c'est pour ça que tu te retrouves à travailler sur un bateau. Tu aimes les enfants, mais tu aurais pu travailler à l'école, travailler dans une école russe et avec les petits.
C'est une autre ambiance. L'école russe, c'est une autre ambiance. J'ai décidé que peut-être un tout petit peu après, parce que c'est bien. Mon école, elle est géniale. J'adore mon école où j'ai fait mes études, mais pourquoi je ne veux pas y travailler? Parce que parfois, il me semble que... Donc, c'est un peu partout. Si on parle de l'enseignement, très souvent, on impose beaucoup de choses. Et là, l'Alliance française, j'ai plus de liberté. Je peux enseigner comme moi je veux le faire. D'après les livres que je veux donner, d'après les méthodes que je veux faire. Donc, c'est moi. C'est moi qui fais ça. À l'école, c'est décidé déjà.
Avec les touristes, donc on est sur ce bateau-là, quel est ton boulot? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien?
Alors normalement, j'aide nos voyageurs à se débrouiller en Russie, comme ils ne parlent pas français. Donc normalement, nous sommes présentes toujours à côté de notre groupe au cas où il y a un souci, je ne sais pas, au cas où il faut traduire quelque chose, aider quelque part. En plus, on fait des animations. Voilà, par exemple, moi, j'ai fait la chorale russe. Il y a ceux qui font les cours de russe, par exemple. Je ne sais pas, des jeux de toutes sortes. Donc, on anime et on aide.
surveiller, voir que les enfants vont bien, les enfants voyageurs vont bien.
Oui, c'est ça, c'est plutôt voir que les enfants voyageurs vont bien. Mais parfois, quand il n'y a pas de guide francophone, on peut traduire, on traduit les excursions. Ça peut arriver aussi assez souvent.
Mais finalement, c'est ça, tu disais que tu aimes bien travailler avec des enfants, mais un touriste, c'est un gamin, c'est un enfant. Il découvre le monde, il découvre tout, il découvre la nourriture, il découvre la langue. Donc tu as réussi ton but dans la vie.
Exactement, c'est la même chose, oui. Les petits-enfants, les grands-enfants.
Il y a forcément des questions, les touristes, les voyageurs qui viennent ici pour découvrir la Russie, découvrir la culture russe. Quelles sont les remarques, les réflexions, les images qu'ont les étrangers ou les Français de la Russie avant de venir ?
À chaque fois, on nous dit que c'est très propre en Russie, à chaque fois. Mais pour moi, en France, c'est aussi très propre. C'est pourquoi que ça me surprit un peu de l'entendre. Hein. En plus, on nous demande toujours si on peut exposer notre opinion assez librement. Donc, oui. qu'est-ce qu'on a encore ? Toujours, je ne sais pas pourquoi, mais les voyageurs veulent voir Saint-Pétersbourg. Hein. Les voyageurs européens, peut-être parce que Saint-Pétersbourg, il ressemble beaucoup aux villes européennes. Mais quand même, toujours, les gens sont surpris de voir Moscou telle qu'elle est, belle, russe, la ville la plus russe, c'est vrai, la ville la plus russe de notre pays.
Pourquoi la ville la plus russe ? Qu'est-ce qu'elle a de plus russe qu'une autre ville ? C'est quoi une ville russe ?
Voilà, c'est quoi une ville russe ? Il faut réfléchir. Une ville russe, c'est là où il y a un peu de tout. Tout est un peu, je ne sais pas. Tout est collé, tout est marié ensemble. Un peu de tout, franchement, un peu de tout. Donc en Moscou, il y a des traits différents. Moscou, c'est comme une boîte. On a mis des maisons, des petites maisons, des grandes maisons, je ne sais pas, des maisons du style européen, de notre style, style typiquement russe. Donc c'est vraiment un mélange, c'est un grand mélange de quelque chose qu'on ne pense peut-être voir ailleurs. Donc à Moscou, si tu te promènes, à chaque fois tu découvres quelque chose de nouveau. À Saint-Pétersbourg, quand tu te promènes, tu trouves quelque chose de joli. À Moscou, bien sûr, il y a aussi beaucoup de belles choses, mais c'est différent, c'est différent. C'est inattendu. Moscou, c'est quelque chose d'inattendu. Donc les villes russes, c'est vrai que peut-être c'est quelque chose d'inattendu, un peu partout. Ouais.
Et toi, pourquoi t'as pas fait le choix de vivre à Moscou et de rester dans ta ville natale ?
Ah, c'est une question un peu intime, disons, parce que c'est lié avec mon futur mari. Parce qu'il habite là, il construit une maison pour nous là. Donc, après avoir terminé mes études, j'ai décidé de revenir chez moi.
À quel âge tu te maries ?
Donc, j'ai 26 ans, dans une année, je pense. Donc, 27 à peu près.
Il y a un âge pour se marier ? Comment ça se passe en Russie ?
Ben non, pas forcément, mais c'est vrai que, disons, si on ne se marie pas avant une trentaine d'années, ce n'est pas très bien vu. Ça, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est les traditions.
Et comment est-ce qu'on rencontre son mari ? Ou est-ce qu'on rencontre sa femme en Russie ? Plutôt, comment est-ce que tu as rencontré ton mari ?
Oh, je l'ai rencontré à l'école encore, à l'âge de 14 ans. Ah oui !
Incroyable. Je reviens dans le bateau. Les touristes, les questions, donc l'image qu'ont les touristes, tu disais Moscou est très propre, la Russie c'est très propre, la liberté d'expression.
Pourquoi elle demande ? Bah, c'est normal parce qu'avant on avait l'Union soviétique avec les mœurs soviétiques, c'était un peu différent. Aujourd'hui, je ne sais pas, heureusement, malheureusement, c'est pas moi à juger parce que je n'ai pas survécu cette période. Donc moi je me sens libre, mais on avait toujours l'image qu'à l'Union soviétique les gens pouvaient peut-être pas toujours dire ce qu'ils voulaient et c'était peut-être vrai.
C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on a l'impression que les Russes ne sourient pas beaucoup ou n'expriment pas forcément leurs émotions.
Avant l'époque soviétique, c'était la même chose.
D'accord. Mais alors pourquoi est-ce que toi, tu souris tout le temps ?
Parce que c'est mon caractère, je ne sais pas pourquoi. Parce que je... Moi, c'est vrai, je suis très souriante. Tout le monde me dit ça, mais oh, je ne peux pas expliquer. Je suis très optimiste, c'est sûr.
Ta famille aussi ?
Oui, ma famille aussi. Oui. Ma sœur, elle sourit tout le temps. Mon frère peut-être pas un peu pas comme nous, mais ma sœur aussi et ma maman. Oui.
Ah, chouette, donc une happy family ici en Russie. Je te demandais ce matin quel est ton rêve, donc ta vision de l'avenir. Comment tu vois ton avenir et quels sont les rêves que tu as ?
Donc mon avenir, c'est sûr que j'aimerais bien avoir les enfants, beaucoup d'enfants. Voilà, mais oui, ça fait rire, mais. C'est un peu comme ça. Bien sûr, j'aimerais bien voyager, mais je ne pense pas que c'est le plus important. J'aimerais bien, mais c'est vrai que pour moi, la famille, c'est quelque chose de très précieux.
Ça, c'est pour toi ou c'est pour la Russie, pour les Russes d'une manière générale ?
Peut-être pour les Russes aussi, peut-être. Mais bien sûr, autour de moi, je vois beaucoup de jeunes qui veulent se marier plus tard, qui veulent avoir des enfants plus tard, c'est vrai, mais... Quand même, vous savez, c'est... Si on compare, si je compare avec des Français que je connais, qui ont, je ne sais pas, une trentaine d'années, 35 peut-être, c'est vrai que chez vous, c'est un peu autre chose. Chez nous, par exemple, si on vit ensemble avec son copain ou sa copine, on peut le faire, mais c'est toujours avant de se marier. Donc, on ne vit pas comme ça, une dizaine d'années, par exemple. Non, c'est toujours, si je vis avec une personne, ça veut dire que elle sera mon époux, mon épouse. Peut-être religion, peut-être aussi après l'époque soviétique, parce que pendant cette période, c'était aussi assez strict. Et les gens se mariaient à l'âge de 20 ans après avoir terminé l'université. Directement.
Merci à toi, je vais te laisser parce que je sais que tu as bientôt la chorale. Alors tu vas faire quoi dans cette chorale ? C'est toi qui chante toute seule ou vous êtes plein là ?
La chorale, c'est moi qui chante. En plus, j'ai un chouette musicien accordéoniste, Victor, bien sûr, qui est plutôt le chef parce qu'il sait mieux ce qu'il faut faire. Je suis plutôt à son aide. Voilà. On a une trentaine, quarantaine de francophones qui chantent avec nous. Oui, on prépare les chansons populaires russes. On fait des... Bien sûr que c'est en russe, mais c'est clair que c'est presque incompréhensible et impossible à prononcer. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on fait la transcription. On travaille beaucoup sur la prononciation et tout. Après, on chante.
Donc on va terminer cette rencontre, cette interview par une chanson que tu vas me chanter. Et comme tu aimes bien les enfants, j'aimerais que tu me chantes une chanson pour les enfants. Donc c'est pas forcément une chanson de ta chorale, mais peut-être une chanson que te chantait ta maman quand tu étais enfant, ou une chanson populaire russe pour les enfants.
Une berceuse peut-être. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птички уснули в саду, рыбки уснули в пруду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, j'ai oublié les paroles.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.